C'est la revue de presse avec Jacqueline Fardel. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Comme le disait Bob Dylan, les temps changent.
Nous sommes un matin de printemps en Haute-Saône, entre Vesoul, Besançon et Dijon, avec les vaches. 70 vaches dont Jouvence dans l'étable. Elle digère le fourrage, la Montbéliarde qui soudain se lève et se dirige vers une porte métallique. Un capteur lit le numéro inscrit sur son collier. Elle est autorisée à rentrer dans la salle de traite. Là, pas d'agriculteur, non un robot de plus de 2 mètres, un long bras articulé et des gobelets trayeurs qui s'emboîtent sur le pis. À la ferme de la Sourceline, la traite est en libre service et racontée par Le Monde ce matin. Et l'agriculteur alors, Benoît Boivin, est à côté. Il regarde des chiffres et des courbes défiler sur son ordinateur. Il sait tout, ce que Jouvence produit, la qualité de son lait, les derniers passages au robot. Les vaches peuvent se faire traire 24 heures sur 24 sans assistance humaine. La Sourceline fait partie des quelques 10% d'exploitations laitières en France à avoir choisi la robotique. Pour Benoît, c'en est fini de l'astreinte répétitive et harassante de la traite mécanique. Depuis que j'ai le robot, je me sens plus éleveur qu'avant, assure-t-il. Le temps gagné sur la traite me permet de m'occuper davantage des vaches, d'être attentive à chacune d'elles. Mais tous les agriculteurs ne s'y font pas. Le voisin de Benoît a acheté un robot aussi et l'a revendu un an plus tard, perdu dans les méandres de l'informatique. Le robot reste un outil qui ne fait qu'obéir. Il ne remplace pas l'œil et le bon sens de l'éleveur. Aujourd'hui, les ventes plafonnent, constate Le Monde, en raison du coût de l'équipement et aussi parce qu'il y aura toujours des éleveurs robots compatibles et d'autres réticents à déléguer à la machine.
Jacqueline, la machine et ses faces ce sombre décrypté par Libération.
L'ordinateur machine a trié les hommes. Le quotidien explique comment les algorithmes peuvent devenir des outils de discrimination, comme le logiciel COPAS, utilisé par les tribunaux américains, outil d'évaluation du risque de récidive. Une enquête a montré qu'avec ce système, les prévenus noirs étaient beaucoup plus susceptibles que les prévenus blancs de se voir attribuer à tort un risque élevé. Autre exemple, une intelligence artificielle testée chez Amazon pour dénicher les meilleurs CV. L'outil avait appris à pénaliser les candidatures féminines. Reste que les algorithmes ne gouvernent que dans la mesure où nous renonçons à nous gouverner nous-mêmes, écrit la philosophe Antoinette Rouvroy, citée dans les colonnes de Libé. Alors que l'Obs nous prévient cette semaine, Big Brother s'apprête à entrer en bourse. Big Brother, c'est la mystérieuse société Palantir. Palantir comme le nom d'une pierre magique du Seigneur des Anneaux, permettant de lire dans le passé ou le futur et de savoir ce qui se passe à plusieurs kilomètres de distance. Son activité, l'intégration de données, regrouper, recroiser et analyser des millions d'informations, en apparence sans lien les unes avec les autres, issues de fichiers très disparates, pour parvenir à résoudre un problème comme trouver un terroriste. Palantir a été créé avec l'aide de la CIA, son premier client, suivi de services d'une trentaine d'États occidentaux. La Direction générale de la Sécurité intérieure française a signé un contrat, 10 millions d'euros par an, dans la foulée des attentats de novembre 2015 à Paris. Palantir qui réalise aussi la moitié de son milliard de dollars de chiffre d'affaires avec des groupes privés comme Airbus et qui vient de décrocher un contrat avec le Pentagone. Son introduction en bourse est la plus attendue de la Silicon Valley.
Lire dans le passé, lire dans le futur, et qui n'a jamais rêver de lire dans les pensées de son voisin ou sa voisine.
Rêve ou cauchemar ? Facebook pourrait bientôt lire dans nos pensées, annonce l'usine nouvelle. Le réseau social qui a testé un système d'interface cerveau-machine avec l'Université de Californie à San Francisco. Des électrodes implantées dans le cerveau de 3 patients volontaires. En face, des scientifiques qui posent des questions simples et enregistre les ondes cérébrales des réponses, une traduction des pensées en temps réel. Et Facebook finance aujourd'hui des recherches pour trouver un système sans électrodes, avec des capteurs fixés sur un casque ou un bandeau. Imaginez un monde où vous seriez connecté aux autres, quel que soit l'éloignement géographique, les handicaps et limites physiques, s'enthousiasme Facebook. Enthousiasme tempéré par l'usine nouvelle. De prime abord, ces engins capables de lire dans les pensées peuvent sembler extraordinaires, écrit l'hebdomadaire. Mais quoi de plus précieux que les données du cerveau ? Et si la firme en profitait pour lire dans les pensées à des fins un peu moins philanthropiques ? Rien aujourd'hui ne protège nos données les plus précieuses, celles du cerveau, s'inquiètent aussi Ouzbek et Rika. Pour le magazine, difficile de ne pas tiquer concernant l'association de Facebook à un tel projet. Faut-il rappeler que la société vient d'être condamnée à 5 milliards de dollars pour non-respect de la vie privée ? Et Facebook n'est pas seul à travailler sur de telles machines. Neuralink, par exemple. La start-up veut créer une sorte de symbiose entre le cerveau humain et l'intelligence artificielle. Comment ? Grâce à un microprocesseur miniaturisé à l'extrême, destiné à être implanté dans les cerveaux. De bonnes nouvelles donc pour les transhumanistes, conclut Ouzbek et Rika, et des perspectives bien trop vertigineuses pour tous les autres. Les robots compatibles donc, et les autres qui préféreront revenir sur le plancher des vaches, prendre une carte, une boussole et se lancer dans une marche de 15 km à travers la garrigue. Scout, toujours et plus que jamais, lance le point cette semaine.
Oui, le scoutisme français est en pleine renaissance, 52% d'inscrits en plus depuis 2010.
Oui, il faut dire que le mouvement a su s'adapter, explique l'hebdomadaire. Lui aussi s'est mis aux réseaux sociaux et puis l'uniforme a été réduit, la mixité généralisée, la religion occupe une place moins centrale. On est loin aujourd'hui du cliché du garçon en short et chemise beige, un peu bené et soumis à une discipline paramilitaire. L'image véhiculée par le film Scout toujours de Gérard Jugnot, c'était en 1985. 30 ans plus tard, ce cliché aurait-il laissé la place à l'arrivée d'un scoutisme bobo, l'éveillé au coin du feu, la connaissance de la nature, le développement de l'autonomie. Les parents sont des écolos plutôt diplômés, soucieux de ce qu'ils mangent et friands des pédagogies à la Freinet et Montessori, reconnaît un délégué du scoutisme français dans l'Hérault. Mais les origines sont variées et un tiers des familles gagnent moins de 2000 euros par mois, complète-t-il. Le scoutisme français est en pleine forme, confirme le Figaro, mais sa croissance est bloquée par un problème, le manque d'encadrants. Ce n'est pas nouveau, surtout qu'on demande ici un suivi plus important qu'une simple colonie de vacances. Alors on gère, on trouve des solutions, on appelle les anciens qui hésitent, puis reviennent. On garde toujours en soi quelque chose de l'esprit scout, dit Suzanne, devenue cheftaine. Alors les plus assidus connaîtront-ils le même destin que Simone Veil, Jacques Chirac, Michel Rocard? Tous ont été scouts, comme d'ailleurs Jean-Jacques Goldman, Isabelle Huppert ou encore Keith Richards.
Semble à Keith Richards, mon idole, il a été scout.
Et voilà, Pierre.
J'en reviens pas, Jacqueline. Une autre voie à suivre peut-être dans Ouest France ce matin?
Au Japon, elle s'apprend aussi en groupe et dès le plus jeune âge. La pratique du ménage, l'osojido, bien plus qu'une tâche ingrate au sein de l'empire du soleil levant. Retirer la saleté, c'est ordonner sa vie intérieure. Rien que ça, explique Shuke Matsumoto. Ce moine de 40 ans, en plein cœur du quartier des affaires à Tokyo, a écrit un livre sur la voie du ménage, écoulé à des milliers d'exemplaires dans l'archipel, aujourd'hui traduit en anglais et même en français. Deux fois par mois, il accueille une vingtaine de personnes, des étudiants, des patrons, des chômeurs. Au petit matin, lecture des enseignements du Bouddha et dépoussiérage, ou comment se transformer formé en fait du logis pour ne pas cacher ses soucis sous le tapis. Le ménage, oui, qui en vous l'accorde, est aussi tout à fait robot compatible.
La revue de presse, c'était Jacqueline Fardel.